France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Nancy Tyson in the house.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Volodymyr Zelensky doit rendre ce soir sa copie corrigée du plan de paix américain, un plan en 20 points avec des lignes rouges territoriales. En attendant la paix, les programmes de reconstruction de l'Ukraine se mettent en place. Alors qui doit financer quoi et dans quelle proportion? C'est aussi un sujet hautement sensible. On y vient dans une minute. Qui va racheter Warner Bros. Discovery? L'affaire n'est pas seulement financière. Un proche de Donald Trump se met sur les rangs. C'est le monde à l'endroit de Frédéric Saïs. Le reportage nous emmène au Sénégal qui expose des objets de la bataille de Samba Sadio il y a 150 ans, prêtés par le musée de Dunkerque.
Je suis en train de trépigner, surtout lorsque je verrai la selle devant moi et que je dirai c'est probablement la selle de mon grand-père.
Reportage signé Juliette Dubois. Dans Sous les radars, c'est un squelette de dinosaure que récupère Oulan-Bator grâce à la France. Et jusqu'à 19h, Caroline Gillet au Pays des 27 nous emmènera à la rencontre d'une négociatrice italienne très très décomplexée. Voilà le programme, il est temps de faire une première escale.
Think of the role the Marshall Plan played in rebuilding and transforming Europe.
Vous reconnaissez la voix de Volodymyr Zelensky. Pensez au rôle qu'a joué le plan Marshall dans la reconstruction et la transformation de l'Europe, dit-il. Aujourd'hui, nous avons une opportunité de déclencher une nouvelle vague de progrès. Nous avons besoin d'une approche de type plan Marshall et nous devons la développer ensemble. C'était en juillet dernier, à la 4e conférence sur la reconstruction de l'Ukraine à Rome. L'Ukraine a besoin, dans le brouillard de la guerre, de préparer l'avenir. Les enjeux économiques sont colossaux. Un plan Marshall, donc, comme après la Deuxième Guerre mondiale, un plan estimé par la Banque mondiale à 500 milliards de dollars. Du côté de la paix, pour l'instant, les lignes bougent doucement. L'Ukraine doit proposer un plan révisé aujourd'hui, un plan en 20 points. La question territoriale est évidemment essentielle, mais le financement de la reconstruction en fait partie, notamment sur l'utilisation des avoirs gelés russes. Bonsoir Pierre Heilbronn.
Bonsoir.
Vous êtes plutôt un homme de l'ombre et nous vous remercions vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'achever, il y a quelques jours, votre mandat d'envoyé spécial de la France pour l'aide et la reconstruction de l'Ukraine, au bout de presque 3 ans. En fait, la reconstruction, elle n'attend pas la fin de la guerre, elle est constante.
Oui, tout à fait. Et le président Zelensky, dès l'invasion à grande échelle en 2022, a mentionné cet horizon comme un horizon à la fois immédiat et de projection d'une espérance du peuple ukrainien, alors même qu'il résistait à une attaque sans précédent. Il y a plusieurs facettes à la reconstruction. Il y a évidemment la reconstruction des infrastructures critiques qui sont détruites par les Russes.
Quotidien, les hôpitaux. Ce soir, Kiev est plongé dans le noir.
Exactement.
La moitié des habitants n'ont pas d'électricité et on sait que la Russie bombarde systématiquement tout ce qui est énergétique.
Et c'est une pause de vitesse pour réparer le réseau toutes les nuits, tous les jours. Mais c'est également les routes, les ponts, et qui permettent en fait de l'accès aux soins, à l'énergie pour les Ukrainiens. C'est également la reconstruction des habitations dans les territoires anciennement occupés par les Russes, mais également la constitution de nouveaux lieux d'hébergement temporaires ou permanents. C'est également, et je crois que c'est une dimension aussi très importante, la reconstruction des corps, des esprits, de tous ceux qui reviennent du front, des blessés de la guerre, des traumatisés, à travers la médecine et la réadaptation. C'est enfin tout ce qui permet au peuple ukrainien de résister. On oublie souvent que la culture, le fait que les théâtres, les opéras, les salles de concert restent ouvertes, font partie en fait de cette reconstruction. Tout ça est un enjeu à la fois d'urgence, d'immédiateté, mais également à concilier avec l'aspiration de l'Ukraine, l'aspiration européenne qui est celle de construire mieux, évidemment, et de construire de manière plus durable, respectueuse de l'environnement également.
Alors, on va parler de la partie économique. Est-ce que la comparaison avec le plan Marshall, c'est la bonne ?
Alors, la comparaison avec le plan Marshall pointe surtout l'ampleur, évidemment, des enjeux. Vous l'avez rappelé, plus de 500 milliards d'euros
ou de dollars.
C'est 3 fois le PIB de l'Ukraine, donc c'est considérable. Ça appelle à la fois un travail de la sphère publique pour dégager les moyens financiers, mais également la mobilisation du secteur privé qui in fine, sera sans doute le financeur de la majeure partie des 500 milliards que vous avez évoqués.
Oui, on peut le dire. La Banque mondiale, la Banque européenne de reconstruction et de développement et effectivement les capitaux privés, ça c'est essentiel. On ne le sait pas forcément, mais la France possède un fonds Ukraine qui est doté de 20 millions d'euros, qui a été lancé l'année dernière. À quoi sert-il ce fonds Ukraine concrètement ?
Alors on l'a lancé vraiment dans l'idée de mettre le pied à l'étrier à des entreprises françaises qui avaient des projets qui répondaient aux besoins urgents des Ukrainiens en matière d'infrastructures critiques. Il y a eu 17 entreprises qui en ont bénéficié. C'est des projets dans le domaine du déminage, du stockage par exemple de l'électricité. C'est 17 entreprises dont 2/3 de PME qui pour la plupart ne connaissaient pas du tout l'Ukraine et maintenant ils ont déployé des projets. C'est quelquefois une source importante de leur chiffre d'affaires en France. Donc c'est un élément également de création d'emplois dans nos territoires. Et l'idée de ce fonds, c'est généralement de leur permettre après d'accéder à du financement multilatéral. Vous avez évoqué les institutions financières internationales qui peuvent les accompagner, mais également l'Agence française de développement.
Mais est-ce qu'il y a une forme de garantie ? Parce qu'il faut qu'on en parle de la corruption, c'est le mal endémique de l'Ukraine. Il y a quelques jours, Volodymyr Zelensky a dû limoger son bras droit, Andrei Yermak, après le scandale de l'énergie. C'était 100 millions de dollars détournés. Il y a là de quoi refroidir des investisseurs potentiels quand même.
Alors, sur les investisseurs potentiels, je crois que c'est aussi important de mentionner le fait qu'il y a des investissements et des investissements qui ont été réalisés au cours des derniers mois. J'en évoquerai que un, celui de Xavier Niel, qui a décidé d'investir 1,5 milliard d'euros en rachetant le réseau fixe de téléphonie et également le troisième réseau mobile. Il a également investi dans 33 000 batteries qui permettent au réseau télécom actuellement de tourner et de continuer à fonctionner. Il l'a fait en ayant les yeux ouverts sur les réalités et également sur les progrès qu'a fait l'Ukraine au cours des 10 dernières années en matière de lutte contre la corruption. D'abord, il faut évoquer quand même la vitalité des institutions de lutte contre la corruption, le NABU, et ils sont allés, y compris dans les bureaux les plus difficiles d'accès, pour faire des perquisitions et pour pouvoir lancer des procédures contre les personnes suspectées. Les moyens d'ailleurs de ces institutions ont augmenté, 700 personnes, elles ont été créées généralement en 2015, 700 personnes pour, par exemple, l'agence anticorruption, qui passeront à 1000 dans quelques semaines.
Donc vous êtes optimiste ?
Moi je crois qu'il y a une intolérance de la société ukrainienne à la corruption qui n'est allée que grandissant, parce que ceux qui reviennent du front ne veulent pas vivre dans la société qu'ils ont connue et ils veulent voir l'aspiration européenne décliner de manière pratique. C'est pas par hasard, d'ailleurs, que le projet de loi remettant l'indépendance de ces institutions anticorruption ont été en fait remis en cause par la rue, par des manifestations de la société civile ukrainienne.
Alors aujourd'hui, pour financer cette reconstruction, il y a une manne financière colossale qui peut servir à la fois à aider l'Ukraine dans son effort de guerre et effectivement pour cette reconstruction, ce sont les avoirs gelés russes. 210 milliards d'euros en tout. La Commission européenne pousse à les utiliser avec par exemple un prêt de réparation de 165 milliards d'euros, mais ça pose, on le sait, des questions juridiques, morales et économiques. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Il faut les utiliser ou pas, ces avoirs russes ?
Il faut évidemment explorer la mise en œuvre de cet instrument, et je crois que la France le soutient, notamment dans le moment que nous vivons. C'est un des leviers. Le président de la République a mentionné hier à la rencontre qui a eu lieu à Londres le fait que les Européens avaient des cartes à jouer. C'est une carte majeure. Ces avoirs sont sur le territoire européen. Il faut le faire évidemment dans le respect du droit international. Il faut également continuer à maintenir le front uni des pays du G7. C'est-à-dire que également au-delà des pays européens, qu'une partie du risque soit assumée par nos partenaires. On a des discussions avec la Norvège, avec le Japon, avec les Britanniques, avec les Canadiens. Et ça doit être également le moyen de consolider des garanties de sécurité, c'est-à-dire de financer la constitution d'une base industrielle de défense
pour après,
européenne pour et ukrainienne, après. Qui sont la meilleure garantie, évidemment, et le meilleur pouvoir de dissuasion vis-à-vis des Russes.
Mais ces avoirs russes gelés, les États-Unis lorgnent aussi dessus. Ils voudraient que ces sommes soient débloquées pour des chantiers de reconstruction opérés à parité entre Moscou et Washington. Est-ce que c'est envisageable, sérieusement?
Évidemment, ça pose un énorme problème pour les Européens. Oui. Et c'est bien pour ça que le président Zelensky, c'est un des sujets dont il a discuté avec, avec les trois chefs d'État européens qui étaient réunis à Londres hier. Ces biens sont, pour l'essentiel, en fait, sur le territoire européen. Et les Européens ont tous les pouvoirs juridiques, dans les limites évidemment du droit international, pour affecter, allouer, utiliser ces, le produit de ces avoirs gelés pour soutenir l'Ukraine dans les semaines, les mois et les années à venir. Mmh.
Le plan de paix, justement, Volodymyr Zelensky doit faire une contre-proposition d'ici ce soir. L'Ukraine, comme l'Europe, essaie de rester au centre du jeu, alors qu'on sent bien que Donald Trump voudrait faire un deal rapidement avec la Russie. Il dit d'ailleurs tout le mal qu'il pense de l'Europe dans son document sur la stratégie nationale qui a été publié à la fin de la semaine dernière. Je sais que vous avez un certain devoir de réserve, mais comment voyez-vous les choses?
Moi, je crois que c'est l'heure de l'Europe, à mille égards, pour que les discours sur le leadership européen, la capacité d'influence, de peser de manière géopolitique pour l'Union européenne se traduisent en actes. Et c'est pour ça que le débat sur les avoirs gelés de la Banque Centrale Russe est très important. C'est un test, en fait, de la capacité de l'Europe à peser et à assumer également sa puissance, d'une certaine manière. Nous avons des intérêts, évidemment, comme Européens, en matière de sécurité du continent européen. Et je crois que l'histoire de l'Ukraine, d'une certaine manière, est indissolublement liée à l'avenir de l'Union européenne. Et c'est bien pour ça que c'est un test, mais c'est également une opportunité pour l'Europe pour assumer cette exigence de souveraineté européenne. L'Ukraine, et on le dit peu, est également une opportunité, un gisement de ressources pour l'Europe et pour le continent en matière de ressources naturelles, gazières.
Les ressources naturelles, Donald Trump aimerait bien
Exactement.
Faire ma base dessus aussi.
Mais ça fait bien partie, on ne peut pas se plaindre uniquement des États-Unis. Il faut que, du côté européen, on crée les conditions pour pouvoir également y répondre et pouvoir aider l'Ukraine et également aider l'Europe.
J'ai une dernière question rapidement, Pierre Heilbronn. Vous êtes rendu une quinzaine de fois en Ukraine en 3 ans. Comment les Ukrainiens voient-ils l'avenir aujourd'hui? Dans quel état d'esprit sont-ils?
Moi, je crois que c'est très frappant. À chaque fois que je reviens d'Ukraine, c'est le degré d'unité qui surprend. Parfois, quand on revient à Paris, de la société ukrainienne, évidemment, il y a une fatigue qui est liée aux nuits qui sont courtes, aux attaques tous les jours et toutes les nuits. Mais ce qui est frappant, c'est que les batteries prennent le relais, que les générateurs tournent, que les équipes de déblaiement déblaient les débris juste après les attaques.
Donc ils ne lâchent rien.
Ils ne lâchent rien. Et c'est cette résilience extraordinaire, cette capacité de résistance de la société ukrainienne qui force le respect et doit être aussi une source d'inspiration.
Merci infiniment. Merci Pierre Heilbronn d'être passé par le studio d'Un Jour dans le Monde ce soir. La suite, c'est vous, Frédéric Saïs, et vous remettez le monde à l'endroit.
Et derrière la vente d'un grand studio hollywoodien, la bataille culturelle pour ou contre Trump.
Et ce sera juste après ça, Jalen Ngonda, All About Me dans la playlist de France Inter. Make it all about me. Jalen Ngonda, le jeune prodige britannique de la soul, s'offre une parenthèse jamaïcaine avec ce titre « All About Me ». Le monde à l'endroit, Frédéric Saïs.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Frédéric, Batman est à vendre.
Oui, tout comme Harry Potter, Les Sopranos ou Le Seigneur des Anneaux, tous à vendre. Alors ce qu'on vient de vous citer ici, c'est une toute petite partie du catalogue de Warner Bros, géant du cinéma et de la télévision, pilier historique d'Hollywood, société plus que centenaire. Voici que Warner et tous ses héros déchaînent la convoitise des grands groupes de l'audiovisuel américain. Alors qui va croquer Warner? Pour l'instant, le mieux placé est Netflix. Netflix, le pionnier des films à la demande par Internet, le streaming, 300 millions d'abonnés dans le monde, 300 millions et encore sans doute bien plus demain si Netflix parvient à mettre la main sur ce catalogue de Warner Bros. Qui compte aussi les séries Friends ou The Big Bang Theory, autant de pépites lucratives pour un diffuseur. Voilà pourquoi Netflix met sur la table 83 milliards de dollars, un peu plus de 70 milliards d'euros. Dans le paquet cadeau, il y a aussi la plateforme de diffusion HBO Max. Le tout permettrait de créer un mastodonte mondial du divertissement, loin devant le numéro 2, l'Empire Disney.
À tel point que Donald Trump lui-même s'est prononcé sur ce projet.
Et il n'est pas franchement enchanté, Christelle, le président américain. Il a affiché sa réprobation officiellement parce qu'il craint que ce nouveau groupe écrase la concurrence, qu'il en profite pour gonfler le prix de ses abonnements. Pas l'idéal pour un Donald Trump qui s'est fait élire sur la promesse du pouvoir d'achat. Mais y aurait-il aussi des considérations plus politiques? Depuis toujours, le groupe Warner Bros. Passe pour un bastion libéral, au sens américain du terme, c'est-à-dire progressiste, promoteur de la diversité, bien loin des croisades anti-woke menées par les Trumpistes. Ça, c'est pour l'entreprise en vente, Warner. Et puis, du côté de l'acheteur, maintenant, Netflix est aussi plutôt étiqueté pro-démocrate. Son patron, Ted Sarandos, est un donateur des campagnes de Joe Biden et de Barack Obama. Sur le papier, donc, avec cette opération, pas de quoi réjouir Donald Trump dans sa grande bataille culturelle.
Mais on n'est pas à l'abri d'un rebondissement dans cette affaire, Frédéric, puisqu'un autre acheteur s'est fait connaître.
Oui, coup de théâtre hier, face aux 70 milliards allongés par Netflix, cet autre acheteur met sur la table 90 milliards. Et ce n'est pas un inconnu pour Donald Trump, il s'agit en fait d'une famille de milliardaires, les Ellison, dont le patriarche Larry Ellison est un ami et un donateur du président américain. Une contre-offre à laquelle participe aussi, tiens, un autre visage connu, un certain Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Jared Kushner, homme d'affaires, négociateur, à mi-chemin entre le business et la géopolitique, il a réussi à convaincre les pétromonarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, d'apporter des fonds pour ce rachat du studio Warner, 20 milliards d'euros en tout, plus d'un quart de la somme totale. Un investissement si massif qu'il est difficile de l'imaginer rentable, selon les experts. Alors s'agit-il d'abord d'un geste de soutien en direction de Donald Trump, de sa famille et au-delà de sa bataille culturelle en Amérique? D'autant que le groupe Warner détient aussi la chaîne d'information CNN, chaîne que le président américain fustige régulièrement. Voilà pour le décor de cette affaire, Christelle. Personnage trouble, motivation incertaine, opération politico-financière. Alors si finalement la vente ne se fait pas, Netflix pourra toujours transformer cette bataille en scénario d'une série à suspense.
C'est signé Frédéric Saïs, à demain. Le reportage d'un jour dans le monde nous emmène au musée au Sénégal, plus précisément dans celui de la ville de Thiès, à 70 km à l'est de Dakar, pour une page d'histoire. Des objets saisis il y a 150 ans durant la bataille de Samba Sadio par le capitaine Émile Féderbe y sont exposés durant 2 mois. 8 objets prêtés par le musée de Dunkerque. Une première étape vers une possible restitution. Juliette Dubois a poussé les portes du musée.
Dernière retouche avant l'ouverture au public.
On est en train de faire le fond avec le tissu. On va les fixer en haut, comme ça, ça va redescendre pour pouvoir cacher le fer.
Derrière ce projet, l'association française Alternative, engagée depuis des années sur la mémoire coloniale. Tout est parti d'un travail avec de jeunes Sénégalais et Français autour de l'héritage controversé du général Féderbe. Dans les réserves du musée de Dunkerque, ils découvrent 8 objets venus du nord du Sénégal. Emmanuelle Cadet, présidente de l'association.
Il y a eu une séquence à plein d'émotions au moment où on a ouvert le texte talismanique qui se trouve présenté là, qui n'avait jamais été ouvert par, en tout cas, cette génération de conservateurs. On a pu le lire, on a vu qu'il y avait un nom et un prénom. Ça fait comprendre aussi, en tout cas, à toute l'équipe de Dunkerque que ces objets, il fallait les travailler au Sénégal.
De Devant les vitrines fraîchement installées, Pierre-André Colli, le directeur du musée de Thiès, nous guide parmi ces objets chargés d'histoire avec émotion.
Ça, c'est gris. Ça, c'est des sacoches qui contenaient des balles.
Ces pièces racontent la bataille de San Basadio en 1875, qui opposa les troupes coloniales françaises au chef religieux Amadou Cherouba. Parmi elles, une selle ouvragée, témoin du savoir-faire sénégalais du 19e siècle, et aussi des objets religieux, comme une tablette coranique ou des talismans.
Mais en temps de guerre, il y avait des gens dans les lieux pour initier des gens à l'islam, à l'écriture, à l'apprentissage de l'islam. Donc, vous voyez ces tablettes-là partout, les gens en avaient. Dès qu'il y avait un moment de répit, ils s'occupaient de religion.
Très peu d'objets de cette époque sont conservés dans les musées du pays. Des jeunes Sénégalais ont été associés à toutes les étapes du projet, comme Salimata Diallo, étudiante en gestion du patrimoine.
On a participé aux réunions et ensuite on a participé à la rédaction aussi de l'exposition, au montage et tout. Voir aujourd'hui ces objets ici, ça nous fait quelque chose, nous, en tant que jeunes Sénégalais, en se disant que c'est des objets qui datent déjà de 1800. Mais en même temps aussi, c'est des objets qui ont été fabriqués ici par nos ancêtres.
Le défi a surtout été logistique. Un long travail commun entre Dunkerque et les musées de Thiès et Saint-Louis, Emmanuel Cadet de l'association Alternative.
On a donc dû mettre en confiance le musée de Dunkerque pour le prêt et puis aussi travailler avec ces deux musées-là pour l'adaptation aux normes européennes. Ça ne se voit pas aujourd'hui, mais c'est un gros travail. Notamment l'achat de grosses machines d'humidification, des humidifications, le contrôle du climat, la sécurisation de la porte.
Le jour de l'ouverture, le public est venu nombreux. Parmi eux, le professeur Sadik Sall, descendant d'Amadou Cherouba.
Je suis en train de trépigner. Surtout lorsque je verrai la selle devant moi et que je dirai c'est probablement la selle de mon grand-père sur laquelle il se posait. Il a été tué. Personne ne sait où est le corps. Il n'a pas reçu de sépulture.
La question de la restitution est sur toutes les lèvres. Pour l'heure, il ne s'agit que d'un prêt temporaire du musée de Dunkerque.
C'est une question de dignité même. Le mot n'est pas trop lourd parce qu'une partie de moi m'a échappé par la force du feu. Si par la force de l'esprit, je parviens à négocier le retour, sachant que nous sommes aujourd'hui dans la même dynamique d'une paix universelle, ce serait le meilleur qui puisse arriver.
Comme au Bénin, où la France a rendu en 2021 26 trésors royaux d'Abomé, beaucoup espèrent donc que le Sénégal suive bientôt la même voie, un espoir que porte la jeunesse sénégalaise.
Je pense que ce serait très important que l'État du Sénégal prenne les devants pour pouvoir faire les démarches nécessaires pour la restitution de ces objets, parce que ce sont des objets qui racontent notre histoire, c'est notre héritage en quelque sorte.
L'exposition San Basadio 1875 sera visible à Thiès, puis à Saint-Louis jusqu'à fin février, avant de revenir au musée de Dunkerque au printemps prochain.
Et pour prolonger cette exposition et organiser d'autres événements, l'association Alternative lance un appel au financement participatif. Le reportage était signé Juliette Dubois. D'autres escales nous attendent ce soir avec Guillaume Auda sous les radars.
Sous les radars, le Yémen bascule, théâtre des rivalités stratégiques régionales, celle des pétromonarchies. Ça bouge beaucoup dans la région depuis le 7 octobre 2023.
Et Caroline Gillet au pays des 27. Caroline, vous avez retrouvé un personnage flamboyant.
Oui, une Italienne cinéphile qui aime le punk hardcore et qui nous parle d'agriculture européenne.
Un punk hardcore, c'est prometteur. On part aux États-Unis pour un voyage dans le temps, 1981. Ricky Lynn Jones s'impose comme une des rares autrices, compositrices, interprètes capables d'intégrer le jazz, le folk. Elle sort son deuxième album avec cette pépite, The Lucky Guy.
Found alone.
Dakiga et la douceur de Ricky Lee Jones, elle nous fait du bien. Bon début de soirée sur France Inter. Il est 18h49. Et voici Guillaume Auda. Qu'avez-vous trouvé sous les radars ?
The advance marks a new phase in the Eastern Yemen power struggle. As rival factions compete for control of strategic territory.
On part d'abord au Yémen avec cette poussée de fièvre séparatiste. Le sud du pays est aux mains des indépendantistes.
Et une image marquante résume la volatilité, la complexité de la situation sur place. L'évacuation en trombe ces derniers jours de la ville d'Aden par l'armée saoudienne. Aden, c'est le grand port stratégique du sud du pays. Il ouvre sur le golfe du même nom. Il a été pris par les troupes indépendantistes, soutenues celles-ci par Abu Dhabi. Elle s'empare une à une, ces troupes des 8 provinces du Sud. Vous avez donc face à face deux poids lourds du Moyen-Orient, les Émirats Arabes Unis d'une part et l'Arabie Saoudite, en lutte d'influence sur un territoire, le Yémen, sachant que le nord-ouest de ce pays, sa capitale en particulier, Sana'a, sont aux mains des Houthis soutenus par l'Iran. On en parle beaucoup des Houthis depuis la guerre de Gaza. En tout cas, c'est sans doute l'un des plus grands bouleversements que connaît le Yémen depuis 10 ans. Il surprend les observateurs par sa rapidité. Il pourrait entraîner un renversement du pouvoir. Voir qui sait la chute de sa capitale et donc une redistribution des cartes dans cette région très mouvementée depuis le 7 octobre 2023.
A former Honduran president convicted of conspiring with drug cartels to bring cocaine into the U.S.
L'histoire d'un président américain en guerre contre les narcos du continent, mais qui, aux États-Unis, gracie les trafiquants.
Voilà, et c'est précisément ce ton tout en ironie qui est employé peut-être sur votre modèle, Christelle, la journaliste de CNN. Quoi qu'il en soit, c'est une information qui a stupéfait le tout Washington. La grâce accordée par la Maison-Blanche à Juan Orlando Hernandez, ex-président du Honduras, condamné l'année dernière à 45 ans de prison par un tribunal de New York pour avoir facilité l'entrée de 400 tonnes de cocaïne sur le territoire américain. Cet homme, Hernandez, il est considéré comme un acteur de premier plan du crime organisé en Amérique centrale, un narco, un vrai de vrai, mais traité injustement et très durement par la justice des États-Unis, a justifié Donald Trump. Et je le cite, ça n'est pas parce qu'on vend de la drogue dans votre pays qu'on doit vous arrêter parce que vous en êtes le président. Non. Drôle de jurisprudence à l'heure où les liquidations extrajudiciaires de bateaux narcos par l'armée américaine se multiplient au large du Venezuela, notamment, ce qui doit quand même faire rire un peu dans son coin, le président Nicolas Maduro.
Là, c'est un crâne de Tarbosaurus bâtard, c'est-à-dire le T-Rex asiatique.
Le T-Rex asiatique ou le cousin du fameux T-Rex de Jurassic Park.
Voilà, c'est bientôt Noël, suffisait de prononcer la formule magique pour déclencher en studio la bande originale et de ce film merveilleux signé Steven Spielberg 1993 et dont un épisode aurait presque pu se jouer, mais ça c'est la réalité entre la France et la Mongolie. Cette voix que l'on a entendue, pas la vôtre Christelle, mais l'autre, c'est celle de Sophie Ocrel, officier des douanes françaises, très enthousiaste à l'idée de restituer à Oulan-Bator les fossiles de ce dinosaure vieux de 70 millions d'années, peu de temps, 4 millions d'années. À peine avant qu'une comète ne percute notre planète et ne mette fin à l'existence de cette espèce. Retour en décembre 2025, ce trésor est estimé à 2 millions d'euros dans les réseaux de revente clandestine. L'itinéraire du Tarbosaurus bâtard est digne d'un polar. Il a été trouvé dans le désert de Gobi, exfiltré vers la Corée du Sud avant d'être convoyé en Europe et de se retrouver dans une maison de l'Allier. L'enquête a duré 10 ans derrière ce trafic des commanditaires français, belges et allemands, mais surtout, surtout une grande victoire paléo-diplomatique pour la Mongolie.
Joli.
Voilà, j'ai inventé un néologisme.
Et moi, j'ai découvert le Tarbosaurus bâtard.
Voilà.
J'ai bien fait de venir. À demain,
ça rime
Guillaume.
Avec plein de choses.
France Inter, le 18-20.
Et dernière escale d'un jour dans le monde avec Caroline Gillet. Chaque semaine, elle nous ouvre les portes de l'Europe à Bruxelles. Dans votre chronique ce soir, Caroline, on retrouve Gaïa Manco.
Oui, les fidèles de cette chronique, salut à vous, se rappelleront de Gaïa, l'authentique italienne qui voulait être chef, toujours habillée de façon remarquable, dans le sens où on la remarque. Elle s'occupe de diplomatie interparlementaire, c'est-à-dire qu'elle aide à faire le relais entre le Parlement européen et les parlements nationaux des 27. Mais elle est aussi beaucoup d'autres choses. Elle apprend le chinois et voilà la traduction de ce qu'on entend dire.
Donc c'est quelqu'un qui dit « Hier soir, j'ai fait un rêve très bizarre, je marchais sur un pont ». Il ne faut jamais croire quand quelqu'un te dit « Oh, c'est très intéressant, ce n'est jamais intéressant, les rêves des autres ».
Et puis elle a des goûts musicaux qui ne feront sans doute pas l'unanimité. Voilà une note vocale qu'elle m'a envoyée hier soir depuis un concert. Pour info, le groupe s'appelle Mandrill Kill. Je pense que Gaïa aurait beaucoup aimé monter sur scène avec eux. Elle adore être au cœur de l'attention, comme elle le raconte, avec beaucoup d'autodérision, ce qui est assez rafraîchissant. Et figurez-vous qu'elle a eu l'occasion de monter sur scène dernièrement. C'était pas une scène de punk hardcore, mais le podium d'une commission interparlementaire au Parlement européen. Elle organise un ICM Agri, un meeting du comité interparlementaire sur l'agriculture.
Que je dois dire n'est pas exactement le thème dont je suis la plus experte, mais je suis experte dans le fait d'organiser les événements.
L'idée, c'est de rassembler des représentants d'organisations, des représentants élus des parlements nationaux et le commissaire en charge de l'agriculture, Christophe Hansen, pour une grande discussion.
Donc, discuter les propositions, pour la faire simple, les propositions de la commission. Et on sait bien qu'en Europe, un thème comme l'agriculture, très très important.
Le contexte de cette réunion, c'est le fait qu'en février, la Commission avait présenté ce qu'on appelle une communication, qui était une vision pour l'agriculture et l'alimentation, pour faire en sorte que le secteur agroalimentaire soit attractif pour les nouvelles générations.
Voilà les statistiques. L'âge moyen d'un agriculteur dans l'UE, c'est 57 ans. Entre 2013 et 2019, le nombre de jeunes vivant dans les zones rurales de l'UE est passé de 3,6 à 1,9 million de personnes.
Salut Caroline. Alors,
l'ICM Agri est dans moins de 48 heures.
Mais donc, la pression, si tu le sens dans mon, dans comment je parle vite, commence à monter parce que tout doit être au moins.
Gaïa m'envoie une photo de ses deux tenues potentielles sur cintre. Elle hésite entre des chemises et robes ou jupes, toutes dans les tons turquoises.
Donc, peut-être tu entendras un peu d'écho parce que je suis dans la salle de commission pour vérifier que tout soit bien. Il y a les collègues huissiers qui sont en train de préparer la salle. Et voilà, tout semble prêt. Les députés du Parti en Europe arrivent. Je vois maintenant les interprètes qui prennent leur place.
Je clique sur le lien du streaming de la réunion. On voit les personnes s'installer. J'imagine Gaïa sur son estrade, en turquoise, tout inquiète.
J'ai choisi la tenue d'eux, mais ça se voyait de la photo parce que c'était la seule pour laquelle j'avais déjà décidé un collier. Mon collier est fait de couverture de magazine miniaturisée. Et voilà, et ça commence.
Chers collègues, chers membres des parlements nationaux et chers collègues du Parlement européen, depuis 2021, nous ne nous sommes pas rencontrés.
Parmi les interventions les plus intéressantes, selon Gaïa, celle de Peter Mendendorp. Il est le président d'une association qui regroupe 34 organisations de jeunes agriculteurs européens pour les représenter dans les institutions européennes. Il est assis à côté de Gaïa.
A small introduction on my side, as I'm not as famous as the other two panelists yet.
Il dit, je vais me présenter parce que je ne suis pas encore aussi connu que les autres panélistes. Ça rigole un peu dans la salle, c'est le seul moment comme ça, je dirais. Il explique ensuite qu'il est agriculteur dans le nord des Pays-Bas avec son père et son frère. Ils ont une exploitation de pommes de terre, d'oignons, de betteraves. Pour le reste, je n'ai pas compris grand-chose. Et voilà comment Gaïa résumerait son intervention.
La discussion de la commission interparlementaire a eu une grande attention vers la jeunesse, en fait les jeunes agriculteurs. Il y a aussi les discussions sur le budget de toute l'Union européenne pour la période après 2027. Après, il faut voir que ça, c'est un débat interparlementaire. Donc, ce n'était pas, dans ce cas, sur une législation précise, mais pour que les députés européennes puissent vraiment débattre et discuter avec les députés des parlements nationaux.
Je demande à Gaïa si, depuis cette réunion, il y a eu des avancées. Elle me répond que le 21 octobre dernier, la Commission a proposé une feuille de route pour le renouvellement des générations dans l'agriculture. Je lis que l'ambition, c'est de doubler la part des jeunes agriculteurs dans l'UE d'ici 2040. Ceci en leur donnant plus de moyens et en créant un observatoire européen des terres pour améliorer la transparence foncière et faciliter l'accès au monde agricole pour les jeunes. Mais entre-temps, on a appris qu'il y aurait une grosse réduction du budget de la prochaine PAC, 20% de fonds en moins pour l'agriculture. C'est mal parti.
Mais quel personnage, cette oui, Gaïa
merci.
Manco.
Merci
elle
à elle.
Est, mais oui, elle est capable de nous rendre les coulisses de l'Europe hardcore. Ça,
voilà.
C'est quand même la
c'est
séquence la
jours.
Plus improbable de la soirée. Merci Caroline, à mardi.
Merci.
Le 18-20, la suite, demandez le programme. C'est d'abord le journal de 19h à suivre avec François Geffrier, puis le téléphone sonne. Bonsoir Lionel Thompson.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du 18-20 ce soir.
Et ces ruptures conventionnelles sont-elles victimes de leur succès, créé en 2008 pour fluidifier le marché du travail travail, selon ses initiateurs. Ce dispositif qui permet d'éviter le licenciement ou la démission et de toucher le chômage a été utilisé par 500 000 salariés l'année dernière pour un coût de 9 milliards d'euros. Y a-t-il des abus? Faut-il restreindre ces ruptures conventionnelles? Eh bien, vous êtes nombreux à nous appeler pour les défendre après en avoir bénéficié, comme Caroline qui travaillait dans une PME a pu ainsi la quitter pour chercher un autre travail et permettre à son entreprise d'embaucher un salarié qu'elle avait formé, ou Pedro, qui nous explique que grâce à sa rupture conventionnelle, il a pu bénéficier du chômage. C'est important que ce système perdure, ajoute-t-il. Le débat est lancé.
Eh oui, le standard est ouvert 01 45 24 7000 et c'est le même numéro sur WhatsApp.